Et bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, parentiers, parentables et pourtant pas rendus. Bonjour et bienvenue, vous écoutez L'Onde Curieuse et vous faites bien. Aujourd'hui, on parle d'accueil et d'accompagnement à la parentalité avec nos invités de l'École des parents et des éducateurs et plus particulièrement des mères solo qui représentent 80% des familles monoparentales, appelées ici mères roseaux, des mères roseaux pensants ensemble, des mères roseaux qui plient mais ne rompent pas ensemble. Les roseaux vivent en bande, vous l'avez remarqué, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne rompent pas, parce qu'ils sont enracinés dans un terrain de commun, parce qu'ils échangent, se transmettent les ressources. Ah, les roseaux sauvages sont nourris de la sève de l'éducation populaire, ils apprennent des autres, tout comme ces mères roseaux qui ont émergé voilà presque 10 ans sur cette terre d'Ardèche. Comment l'école des parents et des éducateurs accompagne ces mères célibataires, mais aussi toutes ces familles, confrontées plus que jamais aujourd'hui à la vertigineuse multiplicité et complexité qui entre dans chaque foyer via notamment les réseaux sociaux? Eh bien, c'est à ces questions et à bien d'autres que répondront dans quelques instants nos invités. Marion Parra, qui est sociologue et directrice de l'école des parents et des éducateurs d'Ardèche. Bonjour Marion.
Bonjour.
Et avec nous également Jacqueline, qui est membre de la collégiale de l'École des parents et des éducateurs. Bonjour Jacqueline.
Bonjour.
Et merci d'être là toutes les deux. On se retrouve dans quelques instants après l'agenda, mais aussi avant. Voilà, hop, ce sera en fin d'émission. Avant la Minute Asso, vous retrouverez Virginie Segui, qui est chargée de projet professionnalisation au Comité Olympique et Sportif, le GDOS pour les intimes, qui viendra nous parler de ce qu'est un accompagnateur guide Asso, cette plateforme mutualisée qui traite de toutes les questions liées à la vie associative. Mais ça, donc, ce sera en fin d'émission. Et avant, un petit point agenda.
Demain, c'est mardi, et le mardi, c'est Session Trad, le rendez-vous des musiciens de musique traditionnelle et folk, à 20h au bar de la Casita à Aubenas. C'est 10 rue Béranger de la Tour. Et puis mercredi, ce sera un bœuf jazz au pas de côté de Mercuyer. Il y en aura pour tous les goûts.
T'as eu l'info par Marie, non ?
Comment tu le sais ?
Je sais pas. Un indice.
Et demain mardi encore, rendez-vous à 19h30 au planning familial des Vences pour un atelier et discussion autour du livre « Politiser le bien-être » de Camille Test, que fait Vivi, que nous avons au téléphone pour nous en parler en direct. Donc, grâce aux ondes du téléphone, nous allons être en direct avec Vivi. Salut Vivi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct via les ondes. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ton sujet ?
À mon sujet ?
Pour te présenter un petit peu.
Oui, alors moi c'est Vivi, donc je suis au Vence, je suis bénévole au planning familial, et puis aussi je fais du podcast, de la photo, et je suis assez investie dans tout ce qui est réflexion et esprit critique.
Et il y a matière à faire.
Je ne m'ennuie jamais.
Ouais. Salut Vivi, pardon. Clara, je te laisse.
En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter donc, l'autrice Camille Test et pourquoi tu as choisi ce livre « Politiser le bien-être » ?
Alors, donc, Camille Test, moi je l'ai connue par rapport à son podcast qu'elle faisait sur Binge Audio. Donc, est-ce que je peux la présenter là comme ça, pas plus que ça, parce que moi, je me suis vraiment intéressée que à son livre. Je sais juste qu'elle est journaliste, qu'elle fait du podcast et qu'elle s'intéresse à ces sujets-là, et dont politiser le bien-être. Moi, c'est par ce prisme que j'ai connu cette personne.
Mais c'est juste intéressant, je rebondis, mais tu auras l'occasion justement d'en parler demain, mais elle est elle-même, en fait, elle a été prof de yoga, c'est ça ? Non, donc elle est dans la machine.
Elle connaît la machine.
Ok.
Et en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter donc son livre, Politiser le bien-être ?
Ouais, donc l'idée de moi, de ce que j'ai compris, hein, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire partager ce livre, c'est que Camille Test, elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment une binarité entre le bien-être d'un côté et l'anti-bien-être de l'autre, c'est-à-dire la raison, pas d'émotion, pas prendre soin de soi, qui souvent est le cas dans des milieux militants où on n'a pas forcément pensé la question de comment prendre soin de nos émotions, de nos affects. Mmh. Et puis, de l'autre côté, vraiment, cette contradiction totale avec un milieu yoga, retraite, qui est en pleine expansion, avec les dérives New Age qu'on connaît, qui est complètement à l'inverse. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour être un peu au milieu? Parce qu'en fait, il y a du bon et du mauvais dans chaque. Et l'idée, c'est de se dire que le bien-être, il ne faut pas le laisser, la notion de bien-être, il ne faut pas la laisser gambader et la laisser partir chez le New Age et peut-être se la réapproprier et du coup la politiser pour en faire quelque chose.
Mmh. Ouais, pas le laisser aux mains du New Age et pas le laisser aux mains d'un marché du bien-être néolibéral, peut-être.
Exactement.
Mmh. Et en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer et donner envie aux écouteurs, à ceux qui nous écoutent, comment va se dérouler ton atelier de demain ?
Alors l'idée, c'est que c'est un atelier qui est issu de... C'est des méthodes issues de l'éducation populaire qu'on peut appeler arpentage. L'idée, c'est de lire le livre, pas forcément tout le livre, mais de lire des passages en petits groupes et de le restituer à tout le groupe à la fin de l'atelier. Ça permet de ne pas se cogner tout le livre si on n'a pas envie. Et ça permet surtout de partager avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément quelques pages et de se l'approprier pour qu'à la fin, on ait une vision un peu du livre et de se dire, est-ce que j'ai envie de le lire? Est-ce que j'ai pas envie de le lire? Est-ce que ça m'a éclairé sur certaines choses ou pas? Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Pas besoin d'avoir été en littéraire, pas besoin de... Même si on n'est pas à l'aise avec... la lecture, on peut très bien venir et puis échanger avec les personnes. Enfin voilà, c'est pas d'exclure quoi.
C'est ouvert à tous.
Exactement, et à toutes. Et c'est gratuit. Je demande juste une petite participation pour le chauffage du planning familial et les photocopies. Voilà.
Merci Vivi. Enfin, je sais pas, Clara, si tu voulais. Moi, je voulais juste rebondir pour faire de l'autopromo, parce que je t'entends parler justement d'arpentage et d'éducation populaire, simplement pour vous dire qu'à partir de dimanche, de ce dimanche, oui, il y aura à 11h et une fois par mois et en rediffusion, une nouvelle émission qui s'appelle Cogit Pop, où on va justement explorer cette notion d'éducation populaire, mais surtout d'arpentage. Alors comme c'est une émission très courte qui dure 26 minutes, on s'attachera uniquement à une citation, mais l'idée est un peu la même chose. Et Vivi, tu viendras aussi dans cette émission nous partager ta manière de pratiquer, et puis tout ça autour d'une citation, mais ça, ce sera à suivre. Donc ça s'appelle Cogit.
Plaisir.
Ouais, cool. Merci Vivi. Donc ça s'appelle Cogit Pop, et ce sera les deuxièmes et quatrièmes, ah mais ça je ne suis pas au fait, hein. Heureusement que Sylvain est là derrière la vitre, les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois à 11h. Merci, et donc on rappelle, c'est...
Alors le rendez-vous, c'est demain à 19h30 au planning familial des Vences, qui se trouve juste derrière le Crédit Agricole, et ça va durer environ 2 heures.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci Vivi.
Merci à vous.
Mais on enchaîne à...
Oui, non, mais... Moi, tu me fais un signe, je pars. Hein.
Mais oui, tu pars, mais tu es plus rapide que l'éclair. Et plus rapide que mes neurones, en tout cas. Mais allez, on va passer au sujet. Et pour se mettre dans l'ambiance, on part avec les Fatal Picard. Dors, mon fils. C'était en 2005, déjà.
Calvaire. Mine de rien, la grossesse a fait prendre 3 tonnes à ta mère. Avant, elle écoutait les Zeppelin, c'était une déesse. Maintenant, c'est plus qu'une montgolfière qui n'écoute qu'en ridesse. Notre vie sociale est ruinée, on parle plus qu'à des parents. Mes meilleurs amis m'ont donné rendez-vous dans 10 ans. Le sexe, je sais plus ce que c'est maintenant. C'est ça, y a plus que toi qui les touche tout le temps. Il est 5h du mat et je dois me lever à 7. Je préférerais carrément que tu m'achèves à la machette. Dors maintenant, dors mon fils. Dors maintenant, ou j'appelle la milice. Et peut-être ils vont te faire mâcher du chewing-gum, mais avec le papier aluminium. Et peut-être qu'ils glisseront sous tes ongles des pointes en fer. Ou peut-être c'est juste du sable qu'ils mettront sous tes paupières. Ce que c'est que t'as fermé l'œil depuis la veille. Si tu dors pas tout de suite, c'est pas la gentille fée que j'appelle. Dors maintenant, dors mon fils. Dors maintenant, ou j'appelle la milice. Dors maintenant, dors mon fils. Dors maintenant, ou j'appelle la milice. Et quand tu seras ado, je te jure, putain, tu vas m'enfler. Je te ferai bouffer bien gras pour être sûr que t'es lacné. Et si malgré tout ça, tu nous ramènes une copine, je lui montrerai où tu planques tes magazines. Il est 6h du mat, dans 1 heure je file à la mairie. Je vais faire changer ton prénom pour un sale truc bien pourri. Dors maintenant. Dors mon fils, dors maintenant, ou j'appelle la milice. Dors maintenant, dors mon fils, dors maintenant, ou j'appelle la milice. Dors, 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 dors.
Et ça y est, il est endormi là. Ouais, je sais pas. Le désarroi des parents par Fatal Picard, Dors mon fils en 2005. J'imagine que ce désarroi-là, c'est quelque chose auquel vous êtes souvent confrontés. Marion Parra de l'éducation, de l'école des parents et des éducateurs. Bonjour Marion.
Bonjour. Ben merci pour cette question parce que j'ai très envie de réagir aux paroles de cette chanson qui, il n'y a pas que du désarroi dans les familles. Et quand un gosse se pointe, c'est effectivement, il y a pas que de la charge. Il y a énormément de bonheur. Il y a énormément. Il nous ramène à l'essentiel. Il nous ramène au quotidien de la subsistance dont parle d'ailleurs Madame Pruvot. Si je vous invite à lire son bouquin là-dessus sur le quotidien de la subsistance, qui nous ramène à l'importance de la conscience écologique et nous éloigne de tout ce qui est développement du profit qui vient rentrer et complexifier la vie des familles. Mais j'ai envie de réagir parce que c'est un père qui parle à son fils, qui parle de la mère, qui a grossi, qui le sexe n'est plus le même. Alors du coup, on pense, ok, donc sa nana, c'est quoi? C'est une femme et c'est une mère et il n'y a rien d'autre. Et c'est très représentatif de ce qu'on appelle l'impensé de la famille, l'impensé de la famille biparentale et hétérosexuelle, où l'adolescence serait bourrée d'acné, insupportable, alors qu'il y a plein de gamins qui sont hyper sympas. Donc ça me fait réagir.
Même bourré d'acné, parce que bon, bourré d'acné, pourquoi quand pas. Même.
Et puis pourquoi pas?
Et bien oui, non mais pourquoi pas?
Et puis pourquoi pas. Oui, et puis qui ramènerait une copine, pas un copain.
C'est vrai.
Du coup, c'est vraiment 2005.
Et... 2005, c'est ça. En fait, il y a presque 20 ans. Et je pense que... Alors, je ne sais pas si aujourd'hui... Non, si.
Non. On parle encore de la milice. Alors, ce n'est pas la milice, mais c'est le retrait des allocations familiales. Si aux parents, si un enfant, pour une raison ou une autre, commet énormément d'incivilité dans un monde qui est quand même pas très, très, très... toujours très accueillant pour les gosses. Du coup, voilà ma réaction à chaud. Je vous remercie, je ne m'attendais pas à avoir un truc pareil. Mais du coup, ça nous ramène vraiment à l'accueil universel et inconditionnel de l'école des parents et des éducateurs.
Voilà.
J'ai une question.
Oui, non, je rebondis pour les auditrices et auditeurs qui nous prennent maintenant. On est donc bien dans cette partie agenda avec Marion Parra et Jacqueline. Bonjour Jacqueline.
Bonjour.
De l'école des parents et des éducateurs pour parler justement de l'accueil et de l'accompagnement des familles justement dans leur rôle. Et puis on parlera aussi plus particulièrement notamment avec toi Jacqueline des Mères Roseaux. Alors l'école des parents et des éducateurs, est-ce que tu peux rappeler Marion ce que c'est ?
Tout à fait. C'est une association qui fait partie de la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs, qui est une fédé qui a été créée dans les années, juste après-guerre, dans les années 50. Mais la première école des parents et des éducateurs a été créée en 1929. Beaucoup partaient 1929, oui, ouais. Ça fait presque 100 ans. Oh, ils vont sûrement fêter. C'était essentiellement, comme à l'époque, hein, une association soucieuse de l'accompagnement des familles par les bonnes actions de la bourgeoisie parisienne, mais qui était effectivement très sensibilisée aux difficultés que rencontraient la plupart des, à leur sens, la plupart des familles précaires. Et puis ça s'est développé. Il y a 32 EPE à travers la France et elles ont quand même une approche essentiellement de la branche psychologique, l'accompagnement psychologique, ce que ne fait pas du tout l'EPE et d'autres EPE. Nous, on a une approche, c'était drôle d'entendre Vivi, que je connais un petit peu, on a une approche essentiellement d'éducation populaire et évidemment, moi, j'y amène ma touche de sociologue. Et ça nous permet d'orienter quand on sent et qu'on perçoit qu'il y a de la souffrance et un véritable besoin d'accompagnement thérapeutique sur du long terme, on oriente vers ça.
Et la touche de sociologue, comment tu l'as... quelle est ta touche de sociologue ?
Je vais pouvoir vous la préciser. Je pense que c'est important de présenter quand même l'émission première de l'EPE. Elle est très simple. C'est de permettre à chaque membre de la famille d'être acteur de sa propre vie, dans sa famille et dans la société. Mmh. Et à partir de là, on accueille de façon le plus inconditionnelle possible, parce qu'on est tous bourrés de jugements, mais on essaye de retenir nos jugements et de les accompagner le plus respectueusement possible, un accueil universel qui donne du temps à l'écoute, à l'échange, et à la proposition, il y a des propositions émergentes, mais qui viennent des gens, donc il faut du temps. Ça, c'est vraiment la mission de toutes les EPE à travers la France. Et du coup, on arrive avec différents axes. Nous, on a développé trois axes. L'axe de l'accompagnement individuel avec un point écoute famille, et c'est là qu'on voit comment on a travaillé l'apport sociologique. Je n'accueille jamais de personnes seules. On part du principe du fonctionnement systémique. Vous avez un groupe et dans un élément, vous avez un membre, une personne, que ce soit une personne de 2 ans, une personne de 15 ans, une personne de 45 ans, peu importe, il y a une personne qui rencontre une difficulté quelle qu'elle est et ça impacte l'ensemble de la dynamique familiale. Mmh. Et dans le même sens, vous avez une dynamique familiale qui peut venir empêcher, freiner, faire souffrir un individu. Donc on a l'exemple classique des violences faites aux enfants, les violences conjugales, où effectivement vous avez un fonctionnement familial qui facilite ou crée des violences. Et de même, quand vous avez au sein de la famille un enfant qui ne va pas aller dans la norme conventionnelle de la famille, que moi j'appelle la PME, papa, maman et les enfants, qui est une petite entreprise, ça peut être extrêmement compliqué, notamment quand il y a des orientations sexuelles qui se révèlent et que c'est au sein de la famille que c'est si difficile à exprimer. Donc on aborde au point écoute famille, mais aussi on aborde un enfant ou un parent qui ne supporte pas que son adolescent n'aille pas ou n'ait pas les mêmes sens d'intérêt ou les mêmes orientations que ce que les parents lui avaient proposé ou qu'une petite fille veut absolument mettre une paire de chaussettes qui ne va pas avec la jupe que sa maman lui a proposée et ça crée des tensions
Mince.
Énormes et voilà.
Ouais, je comprends.
Mince. Bon, je résume. Donc voilà, ça c'est le premier axe de travail, c'est l'accompagnement individuel qui est au point écoute famille où on accueille le groupe en entier et on va pas au-delà de 5 accueils parce qu'on estime qu'à partir de là, soit on a réussi à détricoter ce qui se passe et ils ont trouvé leur solution ou alors ils ont repéré qu'il y a quelqu'un ou le groupe qui a besoin de thérapie. Donc ça, c'est le point écoute famille qui est quand même un axe important de notre travail. Et puis on a ce qu'on appelle l'éducation partagée. Et donc on propose des rencontres qui sont sur la mutualisation des incertitudes, des compétences, des difficultés, des propositions que les parents peuvent avoir. Et on a, donc ça s'inscrit dans les cafés des parents, qui est un label de la Fédération nationale avec une, il y a toute une, un règlement intérieur de comment fonctionnent les cafés des parents. Et là, on a quelques cafés des parents thématiques. Donc on en a un qui s'appelle Éduc'écran, puisqu'on s'est inscrit dans le promeneur du net, qui est un dispositif de la CAF, autour de tout ce qui tourne autour des écrans et des réseaux sociaux. C'est un jeu qui a été créé par la Fédération nationale et qui s'intéresse tout spécifiquement à la place et aux interactions autour des écrans dans la famille, le rythme, le sommeil, l'impact sur l'éducation, sur la curiosité, sur l'autorité, et puis voilà, il y a 8 thèmes. On en a un autre qui est le journal créatif. Et donc là, c'est Madame Chaumont qui intervient et qui propose un temps autour du dessin, du collage et de l'écriture sur une thématique, quelle qu'elle soit, mais qu'on ramène à la relation parent-enfant. Alors vous verrez, je ne parle pas beaucoup de parentalité, parce que parentalité, c'est vraiment un terme qui nous a été proposé par les institutions ou les chercheurs. Mais quand on va devant la porte de l'école, les parents parlent peu de leur parentalité, sauf ceux qui sont assez initiés à la question. Voilà, du coup, j'en parle peu de ce terme-là, même si au niveau des dispositifs, c'est super intéressant. Et on a le goûter des familles qui est en partenariat avec la cantine populaire à Aubenas, qui est d'ailleurs ce qui est tous les deux, donc c'est le troisième mercredi du mois.
Ce sera le 20 novembre.
Le 20 novembre. Et demain, ce mercredi, c'est à 15h30 à l'EPE, au quartier des Oliviers, derrière le numéro 17 de l'avenue Schwarzenbeck.
Le principe des goûters des familles, c'est on arrive comme on est, au moment d'un goûter, pour parler, toujours pour échanger avec...
C'est essentiel. On ne fait rien qui soit simplement pour avoir un goûter et échanger. On amène vraiment la touche dynamique familiale, le goûter des familles. Mais c'est génial parce qu'il y a toutes ces questions de qu'est-ce qui est bon pour la santé, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on mange culturellement, qu'est-ce qu'on fait culturellement, puisqu'il y a des familles, c'est très multiculturel. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça permet aux familles de se rencontrer et de croiser leurs pratiques. Et que au lieu de les hiérarchiser, à savoir ça c'est mieux que ça, et ça permet de valoriser ce que l'on souhaite, toute forme de culture familiale, dans la mesure où l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de la femme et l'intérêt du père sont respectés et qu'ils soient pas hiérarchisés.
Et puis il y a un autre atelier dans ces cafés des parents dont on va parler un petit peu plus tard. J'aimerais d'abord qu'on parle justement des mères aux os, mais on parlera de comment éduquer nos enfants à l'égalité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est
un axe fort,
un axe très très fort. Il y a, donc je le disais en introduction, vous avez depuis à peu près, pas tout à fait 10 ans, 8-9 ans, commencé justement un nouvel atelier qui s'appelle Les Mères Roseaux. Alors Jacqueline, je pense que tu étais là au début. Les Mères Roseaux, qu'est-ce que c'est ?
Alors déjà, je vais me présenter. Donc, je suis Jacqueline. Ça fait 4 ans que je suis, que je fais partie de la collégiale, hein, même si je m'occupe plus des finances, vu ma pratique ancienne professionnelle de la comptabilité. Et puis une petite chose aussi, moi Marion, ça fait 20 ans que plus de 20 ans que je la connais, il me semble. Je venais à la papothèque pour justement parler de problématiques, mais pas que. par rapport au fait que j'étais seule avec mon fils. Voilà. Et les mères aux eaux, alors moi, je viens, je dirais, ponctuellement. Hein, je ne suis pas vraiment dans quelque chose de régulier. Je suis venue, oui, il me semble, il y a à peu près une dizaine d'années, avec les... Il y avait Marla, je me rappelle, il y avait d'autres personnes. Voilà, on discutait de pas mal de choses liées, justement, aux mamans seules, parce qu'il n'y a pas que les mamans seules, il y a aussi les papas seuls. Et c'était surtout parler, enfin rencontrer, voilà, je veux dire, c'est plus dans la rencontre, dans l'échange. C'est un petit peu difficile pour moi, c'est la première fois que je parle comme ça à la radio. Et régulièrement, alors je vais pas dire, de temps en temps, je viens ponctuellement, le vendredi notamment, souvent en ce moment, rencontrer des mamans, échanger, parler, se soutenir, et puis repartir rebooster. Voilà. Je sais pas si ça caractérise ce que représentent les mamans roseaux. C'est oui, un échange.
Marion, est-ce que juste, alors quand on a préparé l'émission au téléphone, on a parlé notamment de la précarité et de la place dans l'imaginaire, dans nos imaginaires, dans nos représentations, de la place de la précarité chez les mamans solo. Et tu as réagi en disant, mais il n'y a pas que ça. C'est 30% effectivement des mamans seules, célibataires, qui élèvent leurs enfants, qui sont dans la précarité. Mais ça, c'est... J'aimerais qu'il n'y ait ni misérabilisme, ni héroïsation de ces mamans-là.
Oui. Bah, merci, Jacqueline. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Jacqueline, elle vient ponctuellement, mais depuis 20 ans, tu viens.
Oui.
Ça, c'est... Finalement, t'es la seule à nous suivre et à suivre le groupe et du coup à accueillir les nouvelles femmes qui viennent.
Oui, c'est vrai. Mais bon, après, on a aussi un rapport entre toi et moi particulier. Oui, donc voilà.
En fait, les Mères Roseaux, ça s'est créé suite à la Papotex, un lieu de rencontre quand on était encore... on avait quelques espaces au centre social qui s'appelait à l'époque Cébelle, maintenant c'est le Palabre. Et on s'est retrouvés plusieurs fois, parce que moi aussi j'ai élevé mon fils aîné seul. Et on s'est retrouvés parfois entre nous à entendre les autres femmes, parce qu'effectivement, un enfant c'est une charge, mais ce n'est pas qu'une charge. Un enfant c'est des tas d'incertitudes. Un deuxième, un troisième, un quatrième enfant, c'est toutes ces choses-là. Et on échangeait sur, on va donner des exemples, le manque de sommeil ou la difficulté avec l'idée de devoir s'en séparer pour qu'il aille à l'école. Ou quand à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'adolescents. Il y en avait deux ou trois. Et l'une d'entre nous partageait sur la difficulté d'affirmer son autorité, parce qu'on nous dit tout le temps que de toute façon, l'autorité, ça vient de l'homme. Et comme il n'y a pas d'homme, il y a énormément de mères seules qui se pose la question, mais ai-je suffisamment d'autorité parce que j'ai pas ce qu'il faut entre les jambes? C'était vraiment une... Et les autres femmes en face de nous disaient, oui, moi c'est pareil. Et nous, on se disait, non, c'est pas pareil. Mais on n'arrivait pas à nommer pourquoi. On n'arrivait pas à se dire, mais qu'est-ce qui fait la différence? Donc on s'est dit, on va se créer un groupe non mixte, entre femmes, qui élèvent seuls leurs enfants. Comme ça, on va pouvoir échanger sans toujours faire attention à ce qu'on va dire et se dire oui, mais peut-être que c'est un petit peu ma faute parce que quand même, je suis toute seule et que du coup, mon pauvre gamin, il ne voit pas son père ou il ne voit pas son père assez souvent. Enfin, voilà. Et c'est comme ça qu'il est né, le groupe. Et on ne voulait surtout pas être appelé famille monoparentale parce que ça, c'est encore un terme institutionnel. Avant, on était soit les mères célibataires, soit les veuves honorables. Et en général, les mères célibataires, c'était souvent des jeunes femmes.
Des mauvaises filles.
Qui étaient des mauvaises filles. Mais pourquoi? Parce qu'elles étaient tombées enceintes. Et pourquoi elles étaient tombées enceintes? Très souvent, parce qu'elles venaient du monde rural au 19e siècle. Michel Perrault a écrit un bouquin là-dessus, super. Et en fait, elles avaient été engrossées sans doute sans consentement, ou si consentement, elle devenait la honte de la famille bourgeoise chez qui elle bossait, et elle se retrouvait à la rue. Mmh. Et donc, nous, on ne voulait pas s'appeler les familles monoparentales. On s'est fait un brainstorming du feu de Dieu, et on s'est dit, bah, on plie, parce que c'est super dur. Oui, il y a une charge qui est hyper dure, même quand on n'est pas dans la précarité, parce qu'il n'y a pas que la précarité économique. Mais en même temps, on ne casse pas, parce que les gamins, ils n'ont que nous. Parce que même si on a ces injonctions à ce que, ça c'est très français, à ce qu'un homme qui ne respecte pas l'article 370 du Code civil de la famille qui dit que l'autorité parentale, il s'agit de s'occuper de la sécurité, de la santé, de l'éducation et de la moralité de l'enfant, même quand il n'est pas là, il faut que le gamin il garde contact avec, avec cet homme. Et ça met un... Ça crée de la souffrance et ça crée des difficultés parfois. Parfois, ça recrée des liens. Et voilà. Du coup, on s'est dit, ben, on plie, on ne rompt pas. Parce que les gamins, ils comptent sur nous. Et on s'est appelés les mères roseaux.
Et justement, alors, ma question s'adresse à la fois à Jacqueline et à Marion. Vous avez, donc ça fait presque 10 ans que ça existe. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions différentes? Est-ce que vous voyez une évolution des besoins ou des questions des mamans?
Alors, enfin, peut-être par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Marion, c'est vrai que moi, quand je venais, c'était pour mon fils petit. Il y avait cette problématique. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus, je trouve, de parents avec des problématiques d'adolescents.
Et de jeunes adultes.
Et, voilà. Et oui, il y a eu peut-être une transformation, mais peut-être aussi une évolution par rapport à ce qui se passe dans la société.
Et puis comme du coup on a déployé les mères roseaux, parce que la déléguée aux droits des femmes est venue me voir en 2021 en me disant bon ça il faut qu'on fasse quelque chose sur sur le département. Alors je dis ben moi le département c'est un peu grand, je veux bien sur le sud Ardèche, et donc on a 7 sites et on va en ouvrir un à l'Argentière là.
Alors pour le temps passe, donc pour les mamans qui aimeraient rejoindre ces mères roseaux, comment font-elles, ça se passe quand et ça se passe
Vous êtes prêtes?
Allez.
Alors, on va commencer avec Aubenas, puisque là, fréquence 7, c'est sur Aubenas. C'est le dernier vendredi soir de chaque mois. Alors, normalement, c'est de 17h30 à 19h30. Je ne suis jamais rentrée chez moi avant 21h. Et on est même rentrée 2 fois de suite vers 11h du soir. Parce que il y a un collectif qui est en train de se créer. Il y a quelque chose de... On a eu 2 week-ends de rassemblement, une fois au Vieil Odon, une fois là, récemment à l'Arayadou. Il y a deux femmes qui nous ont contactées parce qu'elles écrivent une BD sur l'entrée en monoparentalité. Elles nous ont contactées et elles ont voulu rencontrer les mères roseaux. C'est des femmes qui habitent en Chartreuse. Elles ont participé aux assises de la monoparentalité où elles ont présenté leur monographie. Elles ont eu autant de temps que les chercheurs et chercheuses qui ont pris la parole lors des assises. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort qui se construit entre les femmes des différents sites. Alors, le vendredi soir, le dernier vendredi du mois à Aubenas, à l'EPE, au quartier des Oliviers, de 17h30 à 19h30. Vous venez avec les gosses si vous voulez. Il y a un super partenariat avec le centre social Couleur de Lien à Privas, et c'est les premiers mardis après-midi du mois au centre social. Je continue pour la liste.
Ouais, vous trouverez peut-être toutes les infos. Je pense que c'est mieux.
Il vaut mieux. Ouais.
Toutes les infos. Enfin, on entend en tout cas cette dynamique et puis cette reconnaissance aussi, Marion. Cette reconnaissance du travail fait par les mères roseaux.
Alors moi, je dirais la reconnaissance. On a galéré. Hein. Que nos financeurs trouvaient ça exceptionnel, vraiment très très bien, mais c'est comme on avait un groupe que pour les pères, on a été obligé d'arrêter parce qu'on n'a pas eu de financement. Par contre, maintenant, il y a un vrai soutien qui passe par l'État, par la délégation aux droits des femmes et par le plan pauvreté et par la CAF. On a sollicité la communauté de communes du bassin d'Aubenas. Monsieur le Président, s'il vous plaît, entendez-nous. Les mères roseaux, c'est né à Aubenas, c'est né sur la communauté de communes du bassin d'Aubenas. Donc venez, s'il vous plaît, soutenir cette activité qui parle à... Voilà, en Ardèche, sur Aubenas, c'est 26% des familles sont monoparentales. Voilà. Donc il y a un soutien, maintenant à savoir si on va transformer, à tordre le stigmate, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot.
Il nous reste peu de temps, mais quand même un mot avant de nous quitter sur justement comment éduquer nos enfants à l'égalité, cet atelier qui est mené.
Alors celui-là, il est né de, je vais essayer d'être hyper rapide. Il est né de mes observations, et c'est là que la sociologie elle rentre, hein, de mes observations et de mes interrogations et de mes lectures, notamment à Mosaïque. Je suis accueillante à Mosaïque, qui est un lieu d'accueil enfants-parents d'ailleurs qui vient de fermer, qui était porté par l'ASA, et l'EPE se positionne pour pouvoir prendre le relais. Je suis accueillante là-bas depuis 14 ans, je suis en lien très étroit avec l'île aux enfants, qui a un LAEP aussi en Sud-Ardèche. Et j'observais la façon dont les enfants sont genrés, mais dès qu'ils sont tout petits, même s'ils ont des aspirations vers autre chose. Je vous donne l'exemple que je le donne tout le temps, d'un petit garçon qui venait régulièrement, et on a une boîte de déguisement, dans laquelle il y a des déguisements de princesse, des déguisements de sorcière, il y a des lunettes hyper funky, etc. Et lui, il avait une robe de sorcière princesse qu'il mettait tout le temps avec un chapeau de jardinier et des lunettes de soleil hyper funky. Et il passait l'accueil, tout l'accueil comme ça. Et sa maman n'avait rien, pas de commentaire, elle le laissait être, attentive à ce qu'il était. Et un jour, il y a une autre maman qui est arrivée, on voyait qu'elle était hyper mal à l'aise avec ça. Et à un moment donné, elle l'a pris par la main et elle l'a amené là où il y a les camions et les voitures en lui disant « Tiens, là, il y a des jeux pour un petit garçon. » Ce que le petit garçon a fait, il s'est bien amusé, c'était pas un problème. Mais du coup, ça a fait tilt. Et il y a une petite fille qui était très, très turbulente, qui était sur l'espace motricité et qui, chaque fois qu'elle voulait descendre le toboggan, il y avait souvent un petit garçon qui était tout poupon, qui était en bas du toboggan et un peu craintif. Et au lieu de dire « Ah ouais, bah, elle est dégourdie » ou « Elle est un... » Eh ben non, c'était un garçon manqué. Du coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ouais, même tout petit, avec des très jeunes parents, ça tient. Et puis, si vous avez lu du Vanina Mozikovaci, qui est une jeune chercheuse philosophe, qui vient pointer que désormais, on a fait l'éducation des filles pour qu'elles puissent s'affirmer, mais ce qu'on a loupé drastiquement, et je le dis, c'est ma génération, c'est l'éducation des garçons. On peut attaquer les garçons sur leur comportement, mais tant qu'on ne leur donne pas une chance d'être autre chose que des petits costauds qui ne pleurent pas, ou qui pleurent un peu, mais pas trop, et qui doivent s'habiller, surtout pas mettre de jupe alors que les petites filles peuvent mettre des pantalons, eh bien, on a énormément de boulot à faire. Et donc, dans cet atelier « Comment éduquer à nos enfants à l'égalité ?», alors évidemment, les parents qui viennent, ce sont des parents qui se posent déjà des questions. Mais ça nous permet de voir quel discours on tient, quels sont nos critères sur ce qu'est la masculinité ou la féminité. Et je m'arrête parce que je sais que sinon je vais continuer pendant des heures.
Et oui, comment éduquer nos enfants à l'égalité? C'est un atelier qui a retrouvé les vendredis de 14h à 16h. Le prochain, c'est le 15 novembre
tout à
l'EPE, à Aubenas. Merci beaucoup. En fait, c'est un sujet en soi. En fait, tout est sujet en soi. Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire une émission sur l'EPE? Non, bien sûr, il en faudrait beaucoup plus. C'est une invitation, donc, Marion, à revenir, et Jacqueline aussi.
Merci.
À revenir ici.
Et peut-être que nous pourrons intervenir avec la collective du 8 mars. La famille comme berceau des inégalités.
Eh bien, la date est prise. Merci, merci Marion. Restez à l'écoute, puisque maintenant, on passe à la Minute Asso.
La Minute Asso.
Et dans la Minute Asso de ce lundi, nous recevons Virginie Segui, chargée de projet professionnalisation au Comité Olympique et Sportif, le CDOS, qui vient nous parler de ce qu'est un accompagnateur guide asso, cette plateforme mutualisée qui traite de toutes les questions liées à la vie associative. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Et merci d'être là par téléphone, puisque malade, merci. D'abord Virginie, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le guide asso?
Oui, alors le guide asso, c'est donc un réseau d'appui à la vie associative pour que chaque association, qu'elle soit employeuse ou non, même la plus petite, tout domaine confondu, sur n'importe quel territoire, que justement ces associations puissent trouver près de chez elles un endroit, une personne, une structure pour répondre à ces questions, quelles qu'elles soient, dans quelques domaines que ce soit.
Donc Guide Asso, c'est à la fois un réseau avec des gens physiques, j'allais dire, et aussi une plateforme en ligne.
Oui, tout à fait. Et donc c'est également organisé en label. Il y a 4 labels différents. ces labels permettant d'organiser justement le dispositif et le réseau de manière à ce que les associations puissent se rendre vers les structures ou les personnes référencées selon le label choisi. Donc ces quatre labels sont les labels orientation, information, accompagnement généraliste et accompagnement spécialiste.
Alors, parlons justement d'accompagnement. Vous êtes vous-même accompagnateur, guide asso. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'accompagnateur généraliste, ça permet d'avoir une expertise polyvalente dans le domaine associatif. Notre mission principale, c'est d'accompagner les associations dans différents domaines, que ce soit la gestion, le financement, le recrutement de bénévoles ou encore la communication. Donc on est capable de guider les associations tout au long de leur parcours, que ce soit dans la création de nouvelles structures, de nouvelles associations, dans le développement de projets, la résolution de difficultés, également la médiation, ça arrive régulièrement.
Et quelles sont les démarches à faire pour les associations quand elles veulent justement un accompagnement ?
Alors, il suffit qu'elles prennent contact avec nous, hein, que ce soit par mail, par téléphone. On est référencé de manière à ce que, justement, les structures puissent prendre contact avec nous directement et on les accompagne dans leur démarche, quelle qu'elle soit.
C'est gratuit ?
C'est gratuit, tout à fait. Donc, on essaye d'avoir, justement, une couverture du territoire de manière à ce que les associations en proximité puissent trouver un accompagnateur le plus proche de chez elle, mais toutefois, voilà, comme on propose un accompagnement également à distance, voilà, on essaye de couvrir un maximum le territoire.
Et est-ce qu'il faut attendre longtemps avant d'avoir un accompagnateur ou une accompagnatrice ?
Alors non, on essaye de répondre le plus rapidement possible. Dans la mesure du possible, justement, on essaye de faire ça. Si ce sont des accompagnements, des besoins on va dire assez facile, on peut le faire dans la journée même. Sinon, ça peut être un accompagnement au long cours lorsqu'il s'agit d'une nouvelle création d'association pour ce qui va être la rédaction des statuts notamment. On propose un accompagnement sur le long cours.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus, Virginie, dans cet accompagnement ?
Alors, il y a cette proximité avec les personnes. On est là de manière à pouvoir faire preuve de qualité humaine, d'écoute, de patience, d'empathie. Alors, c'est vrai que ces qualités-là sont nécessaires, notamment quand il y a besoin de médiation, puisque les conflits sont quand même réguliers dans les associations. Toutefois, voilà, on essaye de faire valoir nos expertises, également pour ce qui va être beaucoup, en l'occurrence en ce moment, les accompagnements pour les demandes de subventions. Donc voilà, c'est vrai que c'est en premier lieu ce contact humain qui est le plus intéressant.
Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Virginie ?
Alors, que les associations prennent contact avec nous. On est là pour les accompagner au mieux dans toutes leurs démarches et quel que soit le domaine. On n'est pas là que pour le sport, même si on est comité olympique. On met notre aide au service de toutes les associations et toutes les structures.
Et pour ça, donc, un site internet, on renvoie tout le monde vers le site guideasso07 ?
Tout à fait, voilà, nous sommes référencés sur ce site-là et vous avez toutes nos coordonnées directement à cet endroit.
Ben, merci beaucoup Virginie Segui.
Merci à vous.
La Minute Asso.
Et oui, c'est la fin de cette émission. Nous étions avec Marion Parra, sociologue et directrice de l'école des parents et des éducateurs, et Jacqueline, qui sont venues nous parler donc de l'EPE, un lieu ressource parentalité, et puis qui nous ont parlé de beaucoup de choses. Vite, 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 on se dépêche, Sophie. C'est la fin de cette émission. Donc, merci Clara, merci Sylvain pour la réalisation. Restez à l'écoute de Fréquence 7, puisqu'à 13h, c'est Haïku tout court. À 15h, c'est le Telex, vos messages au 04 75 93 30 25. À 16h, c'est l'Imaginoir, une émission réalisée par des personnes mal et non-voyantes qui sont accompagnées par Résonance, nos amis de Résonance. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, solidaire d'abord. À 19h, tu danses. Vous faites une petite respiration. Après, ensuite, c'est 20h chez Tonton, la musique contemporaine africaine. Et à 21h, Hexagone, Jazz, NB. Et puis, vous retrouverez toutes ces émissions sur le site internet fréquence7.net, que ce soit en streaming ou en replay. Voilà, on se retrouve demain pour parler de la pure et dure. Merci à toutes et tous. Ciao.
Merci.